suis anthropologue. Alors, moi, je ne me dis pas anthropologue du religieux, mais anthropologue politique du religieux. Et il y a une différence que dont je vais vous parler. Et donc, depuis ma thèse de doctorat, je me suis spécialisée en anthropologie politique du religieux. En fait, je suis partie en 1996 au Sénégal pour la première fois. Dans le cadre de mon mémoire de maîtrise à l'époque, donc l'équivalent de votre master 1, ça ne rajeunit pas de dire les choses comme ça. Donc en 1996, je suis partie au Sénégal où je voulais travailler sur des conflits générationnels à Dakar. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les questions religieuses auxquelles je ne m'étais pas intéressée auparavant. Sauf que je suis tombée en plein Ramadan, complètement par hasard, et que pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée dans une société où le religieux sature l'espace public, où le religieux est une norme de référence dans le quotidien des gens, en l'occurrence c'est l'islam. Et donc j'ai compris que travailler sur l'islam était une condition sine qua non de la compréhension de tout fait social au Sénégal. J'ai vraiment compris qu'il fallait passer par l'islam pour comprendre quelque chose à ce qui pouvait se passer d'une manière générale, quel que soit le sujet, au Sénégal. Donc j'ai fait mon doctorat que j'ai soutenu en 2002 et depuis lors je travaille donc sur des groupes religieux, principalement urbains, dans des pays où, je l'ai dit, le religieux est impliqué dans les débats sociaux et politiques. Le religieux transforme la société, la moralise et influence vraiment le quotidien des gens. Et donc mon travail, d'une manière générale, c'est de comprendre l'impact des forces religieuses en présence dans une société, donc l'impact sur une société dans son ensemble et également sur des individus dans leur vie quotidienne. J'ai principalement travaillé sur l'islam au Sénégal, ensuite au Burkina Faso, puis au Maroc et actuellement en Algérie. L'idée étant de comprendre, de faire une comparaison entre le nord et le sud du Sahara, chose qui n'est pas énormément faite dans la recherche scientifique, et de travailler sur les processus communs de réislamisation. La réislamisation étant, si je peux la définir très rapidement, un projet politique lié au religieux, donc ici à l'islam, qui est un projet de réarmement moral de la société, d'implication du religieux dans le politique et comme normalisation du quotidien des gens. Donc suite à ça, j'ai travaillé aussi, ou en parallèle, sur des groupes chrétiens évangéliques au Sénégal et au Burkina Faso, et ma démarche était toujours comparative. Mon intérêt était de comprendre, de comparer les groupes islamiques et les groupes chrétiens évangéliques pour montrer les processus de prosélytisme et de volonté de transformer les sociétés qui sont, à mon avis, extrêmement similaires entre les groupes chrétiens et les groupes islamiques aujourd'hui dans ces sociétés subsahariennes depuis les années 90. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de mes problématiques, etc., mais je vais plutôt vous parler de difficultés que j'ai eues à travailler sur ces terrains religieux et vous expliquer comment j'ai pu m'en sortir. Alors, travailler sur le religieux, c'est avant tout travailler sur le social, surtout quand on fait de l'anthropologie politique du religieux. C'est-à-dire que moi, je ne m'intéresse pas forcément au rituel en tant que tel, mais je m'intéresse à l'inscription du religieux dans un contexte social. Et je cherche les enjeux sociaux et politiques de la mise en œuvre d'une identité religieuse particulière. Mais travailler sur des terrains ethnographiques sur les questions religieuses, alors peut-être parce que c'est parce que je travaille sur les questions religieuses que je trouve que c'est particulier, mais il n'empêche qu'il me semble que le fait de travailler sur le religieux engendre des difficultés particulières, que je vais vous expliquer. Alors tout d'abord, chose très particulière, c'est que lorsqu'on est un chercheur et qu'on part sur son terrain pour travailler sur des questions religieuses, on est forcément face à des acteurs sociaux qui sont des croyants, puisqu'ils sont dans des groupes religieux. Et en tout cas, en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, les croyants que j'ai toujours rencontrés étaient dans un mode de pensée qui faisait qu'il était pour eux complètement inconcevable de penser qu'on puisse être non-croyant. Du coup, ils ne pouvaient pas imaginer que moi, je pouvais être... Voilà, ils ne se posaient même pas la question, quoi. On est obligatoirement croyant. Et la particularité du travail ethnographique sur le religieux, c'est que dès qu'on arrive sur un terrain, le chercheur avant même de pouvoir commencer son terrain d'étude et systématiquement, mais c'est quand je dis systématiquement, c'est à chaque fois interroger lui-même sur sa croyance, sur son appartenance religieuse et sur sa pratique ou non pratique. Et évidemment, tout cela, il faut l'expliquer, il faut le justifier. Voilà. Et donc, de la réponse qu'on va faire à nos interlocuteurs, ça va nous ouvrir le terrain ou ça va nous le fermer. Donc, c'est vraiment une particularité quand on travaille sur le religieux, de commencer en devant être soi-même interrogé. Et évidemment, le chercheur doit essayer d'imaginer ce que la personne en face de nous attend comme réponse pour pouvoir s'ouvrir le terrain. Donc on peut dire qu'on est croyant mais pas pratiquant, mais certains ça les dérange, pourquoi est-ce qu'on n'est pas pratiquant, etc. Pour d'autres, si on dit qu'on est pratiquant, ça les dérange aussi parce qu'ils sont dans un désir de prosélytisme et donc il peut y avoir conflit entre religions, etc., etc. Donc il faut essayer de trouver toujours un discours qui ne va pas nous bloquer le terrain. Et alors moi, ce que je fais souvent, et beaucoup de collègues qui travaillent sur le religieux font à peu près la même chose, on joue d'une ambiguïté du terme recherche. C'est très facile d'arriver sur un terrain religieux et de dire « je suis en recherche ». Je suis en recherche. Moi, je suis en recherche scientifique. Je sais que les acteurs religieux en face, ils vont comprendre ça en recherche spirituelle. Du coup, ça nous fait un point commun. On cherche quelque chose. Et là-dessus, on peut s'entendre et ça peut créer des ouvertures pour commencer un terrain. Donc, on voit vraiment la particularité de ce terrain où l'anthropologue doit se justifier à titre privé sur sa démarche avant de pouvoir commencer. Et donc, la manière dont on se présente est très, très importante. Mais il faut avoir conscience hein, qu'on travaille sur le religieux ou pas, quand on arrive sur un terrain neuf, nouveau pour le chercheur, la façon dont on se présente à ses interlocuteurs, c'est on arrive un petit peu comme... on est quelqu'un de nouveau, on va se montrer d'une certaine façon. Et la façon dont on va se montrer, ça va nous suivre tout le long de l'enquête. Et il faut être vigilant par rapport à ce que l'on raconte. Des fois, il peut y avoir des conséquences. Par exemple, en 2006, j'ai réalisé un terrain de 3 mois au Burkina Faso, chez les évangéliques. Et j'ai travaillé dans beaucoup d'églises. Et j'étais fatiguée de cet interrogatoire que je devais subir à chaque fois que je rencontrais des pasteurs devant me justifier sur mes croyances, mes pratiques, etc. Et donc, un jour, je suis arrivée dans une église et je me suis dit, je vais abréger ça. Et du coup, j'ai dit, je suis chrétienne. Voilà. Je ne mentais pas parce que je suis d'origine catholique, donc chrétienne. Sauf que je savais qu'en face de moi, j'avais des chrétiens évangéliques et que pour eux, être chrétien, c'est être chrétien évangélique, c'est-à-dire être un born again, être né une deuxième fois, avoir rencontré Christ. Pour eux, les catholiques ne sont pas des chrétiens, ce sont eux les seuls vrais chrétiens. Donc je savais qu'il y avait cette, là encore une ambiguïté par rapport au terme, mais je me suis dit, j'en joue, je mens un petit peu par omission, mais voilà, on va s'arranger comme ça. Sauf que le temps que j'ai passé dans cette église, le pasteur avait des problèmes avec un groupe de ses fidèles. Et tous les jours, il venait me raconter toutes les petites histoires qu'il y avait à l'intérieur de l'église, en me disant, je vous raconte tout ça parce qu'on est frères et sœurs en Christ. Alors d'accord. Sauf que les jours passant, c'était de plus en plus, ça montait de plus en plus et je sentais qu'il y avait un malaise par rapport à ça. Et le jour de mon départ, pour me remercier de ma présence dans l'église, il a fait venir 4 ou 5 pasteurs d'église des alentours et on a fait un entretien collectif. Et ensuite, m'honorer d'être venue, parce que c'est vraiment un honneur, ils m'ont demandé de témoigner moi-même comment j'avais rencontré Christ. Ben, forcément, quoi. Et là, je vous avoue que j'ai vécu un grand moment de solitude et que je ne pouvais plus dire que je ne suis pas évangélique, parce que alors là, ça allait être pire pour eux si je leur disais que je leur avais menti, parce qu'ils allaient avoir le sentiment que je les avais dupés pendant tout mon séjour. Du coup, il a fallu que j'invente un truc. Et voilà, donc j'ai parlé, j'ai raconté que j'étais protestante de l'Église réformée de France, et puis j'ai essayé de mentir le moins possible en disant que, originaire du sud-ouest de la France, région très protestante, je leur ai parlé d'Henri IV, je leur ai parlé de l'Édit de Nantes, je leur ai parlé d'un peu tout et n'importe quoi, et le moins possible de moi-même, pour essayer de... Bon, ils me regardaient avec des yeux un peu ébahis, et je n'ai jamais osé retourner dans cette église, évidemment, par la suite. Donc voilà, tout ça pour dire que la façon dont on se présente sur son terrain peut avoir des conséquences, donc il faut être vigilant, il faut faire attention. Lorsque l'on travaille sur le religieux, autre problème qu'on peut rencontrer, qu'on rencontre souvent, c'est qu'à un moment donné, souvent dans des groupes en plus prosélytes, les acteurs religieux vont vouloir convertir le chercheur. Et donc il peut y avoir une certaine pression, notamment par exemple quand on travaille chez les évangéliques, une pression sur soi, sur la famille chez qui l'on vit, etc., pour une conversion. Alors le chercheur doit continuellement chercher une distanciation, mais là encore, il ne faut pas fâcher son auditoire, parce que quand on reste longtemps sur un terrain et que les gens espèrent convertir le chercheur, au bout d'un moment, ils se rendent compte que le chercheur, il ne se convertit pas. Et du coup, petit à petit, ça peut créer des tensions et le chercheur peut être chassé de son terrain de recherche petit à petit parce qu'il ne se convertit pas. Et puis, moi, je l'ai vu, j'ai vu surtout des apprentis chercheurs, donc des doctorants. Au temps où moi-même j'étais doctorante, des collègues à moi qui étaient, on était ensemble sur le terrain, on travaillait sur des groupes religieux peut-être différents. En plus au Sénégal, dans un climat où il y a un mysticisme ambiant très très fort, j'ai vu certains de mes collègues être happés par leur sujet d'étude, se convertir au groupe religieux. Et du coup, ça pose problème parce que par la suite, ils deviennent les porte-parole du groupe religieux qu'ils étudient. Ils n'ont plus le recul nécessaire pour en faire une analyse critique et ça pose évidemment des problèmes. Donc c'est toujours une question de distanciation avec son objet de recherche. Alors ce que je vais faire, je vais entrer dans le détail de deux terrains que j'ai fait pour vous expliquer comment on fait pour travailler en terrain hostile, l'enquête en terrain hostile. Et comment on peut s'en sortir, puisque c'est des questions qu'on a déjà un petit peu abordées dans les séances précédentes. Je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Parce que parfois, le chercheur est mal accueilli sur son terrain. Il est face à des gens qui refusent de parler ou qui carrément lui demandent de quitter le terrain. Et donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on part, soit on reste, on s'accroche et on essaye de trouver des solutions pour enquêter quand même. Et donc, je vais vous expliquer, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais je vais vous parler de deux fois, voilà. La première fois que ça m'est arrivé, c'était tout simplement pour mon terrain de thèse, où j'ai travaillé, comme je l'ai dit, sur un groupe islamique sénégalais, donc c'est cet ouvrage-là. C'était un groupe religieux sur lequel je voulais vraiment travailler, parce que c'était la fin des années 90. C'était un groupe religieux très très populaire, avec des dizaines de milliers de fidèles. Et puis, un groupe religieux qui était entré en politique, qui avait vraiment un discours sur la société, vraiment une volonté de transformer la société sénégalaise. Personne n'avait vraiment travaillé dessus, et je sentais que c'était un groupe religieux qui était en train de transformer complètement la façon de vivre le religieux au Sénégal, et donc les rapports politico-religieux, puisque au Sénégal, l'islam est omniprésent dans le politique, dans l'économique, etc. Donc je tenais là quelque chose qui était en train de bouleverser complètement la société sénégalaise, ce qui d'ailleurs s'est avéré exact par la suite. Et donc, voilà, je voulais vraiment travailler sur ce mouvement-là. Or, je suis arrivée dans un moment très compliqué. Le responsable de ce groupe venait de se lancer en politique. Il avait fondé son propre parti. Il se présentait à l'élection présidentielle de l'an 2000. Et quand moi, je suis arrivée, du fait de sa politisation, il avait eu des problèmes avec l'État. Il avait fait un an de prison, donc il venait de sortir de prison. Il avait été accusé d'assassinat politique. Son groupe religieux avait été interdit pendant plusieurs années. Donc là, il avait été réhabilité parce qu'il y avait eu des manœuvres politiques, etc. Mais j'arrivais dans un contexte où souvent les unes de la presse parlaient de ce groupe religieux et disaient un petit peu tout et n'importe quoi, des accusations de trafic d'armes, etc., etc. Donc moi, je suis arrivée dans ce contexte assez innocente en disant que je voulais travailler sur eux en tant qu'anthropologue. Et je me suis retrouvée face à des adeptes qui étaient extrêmement méfiants envers toute personne extérieure au mouvement parce qu'ils avaient peur qu'on dise du mal d'eux, qu'on critique leur guide spirituel, etc. Et puis de toute manière, tous les adeptes avaient pour consigne de se taire, de ne parler à personne. Et comme c'était un mouvement de l'islam soufi, mystique, les fidèles pensant que leur guide spirituel avait des dons d'ubiquité, ils étaient persuadés que même s'ils s'enfermaient dans une pièce avec moi pour me parler, leur guide spirituel le saurait. Donc ils s'auto-censuraient, et moi je suis arrivée dans ce contexte avec personne, mais personne qui voulait me parler. Alors on m'a donné des rendez-vous qui étaient des faux rendez-vous, certains m'ont promis des documents que j'ai jamais vus. Je me suis fait balader sur mon terrain comme pas possible. Il y avait aussi la volonté de... Il y avait ceux qui ne voulaient pas me parler et puis ceux qui me laissaient croire qu'ils allaient me donner des informations mais qui ne me les donnaient pas. C'était peut-être une façon aussi de me dégoûter et que je laisse tomber. Un jour, j'avais pris un rendez-vous par téléphone parce que à l'époque, je commençais à maîtriser plutôt bien le Wolof. J'avais pris rendez-vous avec une jeune fille avec qui, pour un entretien. Elle n'avait pas compris que j'étais pas sénégalaise. Et donc, quand elle m'a vue, mais vraiment, littéralement, elle s'est levée, elle est partie en courant. Donc voilà, j'étais confrontée à ce genre de personnes et je commençais à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi, c'est pas possible. Au départ, j'avais prévu de partir 6 mois pour faire mon terrain. Et je peux dire au quatrième mois, début du cinquième mois, mais j'avais rien, quoi. J'avais rien, j'avais quelques données, mais c'était vraiment pas suffisant pour faire une thèse. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé déjà mon terrain de thèse, hein, je suis restée 1 an et demi au Sénégal, pour pouvoir revenir avec des informations conséquentes. Alors comment j'ai procédé pour réussir à travailler ? Ce genre de terrain est très très difficile à mener, certes, mais ce qui le rend d'ailleurs très passionnant. On se rend facilement compte que la non-collaboration des interlocuteurs qu'on a en face de soi pose finalement des questions qu'on ne se serait jamais posées si on avait eu les informations qui avaient coulé comme ça de source. Et donc, mon objectif n'était plus de faire une monographie simple de ce groupe religieux, de savoir comment il fonctionnait, comment il était structuré, son histoire, etc. Le cœur de ma problématique est devenu, pourquoi est-ce que ces gens-là ne veulent pas me parler? Pourquoi est-ce que je me disais que chaque personne que j'avais en face de moi était potentiellement une personne qui voulait me cacher quelque chose. Et donc, j'ai décentré mon sujet d'analyse, non plus sur ce groupe religieux, mais sur ce comportement étrange, attention le fil, hein, sur le comportement étrange de ces fidèles. Alors, je suis au Sénégal, je vis là-bas, j'ai des amis, j'ai de la famille au Sénégal, donc j'ai forcément des liens, des gens qui connaissent, des gens qui sont dans le mouvement, etc. Donc par réseau relationnel, j'ai fini par tisser des relations de confiance avec certains des adeptes que j'ai rencontrés au départ complètement en dehors du mouvement religieux et qui petit à petit m'ont fait entrer dans le groupe religieux. Donc j'ai réussi au bout 1 an et demi à entrer, enfin, voilà, à faire un vrai terrain ethnographique, à aller dans le groupe religieux, à participer à des séances à toutes les séances religieuses qu'il y avait à tous les niveaux. J'ai fait vraiment un travail de terrain beaucoup plus conséquent pour pouvoir revenir avec des informations. Donc j'ai réussi quand même, on réussit toujours finalement à rentrer avec de la persévérance dans le groupe religieux. Le problème dans ce type de mouvement qui est très très fermé, c'est que toute une série d'informations, même quasiment toutes les informations, circulent par oui-dire. Moi, j'avais le sentiment de travailler sur un phénomène de rumeur. Je ne pouvais jamais savoir si à tel moment il s'était passé tel événement. J'avais plein de gens qui me parlaient d'événements qui pouvaient s'être passés à un moment donné, mais chacun me donnait évidemment sa version des faits. Et puis moi, j'essayais de savoir si ça s'était vraiment passé. Et puis après, j'avais des doutes. Enfin, voilà, c'était une espèce de nébuleuse comme ça, mon terrain. Je n'avais aucune donnée vraiment fiable. Alors par exemple, je suis allée travailler à un moment donné dans les archives à Dakar, les archives nationales, pour donner un aspect plus historique à ce groupe religieux, parce que j'ai fait des enquêtes dans une ville sainte où c'est la famille d'origine du fondateur de ce mouvement. Donc je suis allée déterrer des secrets de famille qui étaient très très malvenus en fait de déterrer. Donc, mais j'étais obligée de passer par là pour comprendre pourquoi c'était un mouvement qui se politisait aujourd'hui. Enfin, voilà, en fait c'était toute une histoire familiale qui datait de plus de 50 ans. Et il fallait que je reconstruise tout ça. Donc je suis allée voir des cousins qui étaient en désaccord avec le guide spirituel, donc ils m'ont raconté des histoires sur lui. Enfin voilà, c'est, mon terrain, ça a été ça. Et par exemple aussi, pour vous raconter un petit peu l'ambiance, je suis allée aux archives à Dakar, où j'ai trouvé plein d'informations sur, pendant la colonisation, le rapport de l'administration coloniale avec les chefs religieux de la famille de ce groupe religieux. Et quand je suis revenue en France, alors j'ai fait beaucoup de photocopies, je suis revenue avec des valises de documents. Et quand je suis revenue en France et que j'ai travaillé sur ces documents, mon directeur de thèse m'a dit que, moi je ne suis pas historienne, donc je n'avais pas noté les références, les codes, voilà. Donc il m'a dit, il faut que, pour te servir de tes documents, il faut avoir les références. Donc moi j'ai appelé à mon beau-frère à l'époque au Sénégal, je lui ai dit, s'il te plaît, retourne aux archives et va me relever les codes. Et donc il y est parti, et quand il est arrivé là-bas, tout avait disparu. Tout a disparu, il n'y avait plus rien. Parce qu'on savait que je faisais des enquêtes et que systématiquement, on passait derrière moi et on essayait, soit on essayait de m'empêcher de travailler, soit ce que j'avais fait, il fallait le cacher, quoi. Donc, je dérangeais. Donc, ça, c'est pour vous expliquer un petit peu le climat dans lequel j'ai passé un an et demi à travailler. Et il faut savoir que sur ce genre de terrain, rien n'est méthodologiquement complètement carré. Par exemple, j'ai fait du terrain ethnographique, j'ai participé à beaucoup de cérémonies religieuses, j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes avec qui j'ai discuté, parfois d'une façon très très approfondie. Hein. Mais en fait, ma thèse, ce bouquin, je ne sais pas, j'ai recensé à la fin, il doit y avoir 15 entretiens, 20 entretiens maximum réels que j'ai fait. Donc c'est toute une thèse sur 20 entretiens. Avec un an et demi de terrain. Et en fait, ces gens que j'ai interviewés sont des gens que je n'ai pas choisis. Ce sont les seules personnes qui ont accepté de me parler. Donc, c'est eux qui m'ont choisi de me parler. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas et avec quoi je devais faire affaire. Alors, au final, quand j'ai écrit, évidemment, ma thèse, les personnes que j'ai citées sont restées anonymes hein, parce qu'il s'agissait de ne pas leur créer de problèmes. Il faut avoir conscience que dans ce type de travail, lorsqu'on a publié son travail, et ce bouquin, il a été très, très diffusé au Sénégal, et la plupart, moi, à chaque fois que j'y vais, je rencontre des fidèles de ce groupe religieux, même sur les campus universitaires, etc., qui tous me disent « on a lu votre livre ». À chaque fois, j'ai une petite frayeur parce que je me demande qu'est-ce qu'on va me dire. J'ai eu énormément de retours. Par mail, sur Google, Google Book, là, je sais pas quoi, tu sais, quand tu vas, je sais plus, oui, un truc de vente, il y a des commentaires, il y a des gens qui font des commentaires. Alors, ça part dans tous les sens, quoi. Elle a jamais fait de terrain, raconte n'importe quoi, c'est de la belle littérature. Enfin, voilà, et puis moi, j'ai reçu des mails incendiaires. Il y a des gens qui sont venus chez moi à Dakar pour me menacer. Enfin, bon, ça a été un moment. Bon, j'ai jamais eu peur parce que je suis française et parce que je sais qu'au Sénégal, ça me donne un statut où je... Voilà, mais je sais que j'ai des collègues hein, sénégalais qui ont voulu travailler sur ce groupe religieux à ce moment-là et qui ont eu des problèmes plus importants que moi. Voilà, donc il faut avoir conscience que quand on publie, quand on a fait un travail sur ce type de terrain, on ne peut plus y revenir. Ça, c'est... Voilà, une fois que c'est fait. Et après, on n'est plus bienvenu. Il y avait des journalistes qui ont fait des articles sur le mouvement, qui ont révélé des choses. Et les bureaux des journaux ont été saccagés ou ont été brûlés. Il y a des gens qui ont reçu des menaces de mort. C'était un climat où il y avait des assassinats politiques à l'époque, dans les années 90. Aujourd'hui, c'est vraiment différent, la société sénégalaise. Mais il y avait un climat. Alors, savoir si vraiment c'était très dangereux, bon, il valait mieux pas trop... voilà. Moi, je savais qu'en tant que Française, j'aurais pas de problème, parce que... parce que je connais bien la société au Sénégal, et je sais que... j'avais pas à avoir de peur particulière, sauf des gens qui sont venus chez moi et qui m'ont dit que mon ouvrage, c'était du n'importe quoi, j'avais raconté n'importe quoi, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave, ça, voilà. Mais... Oui, il y avait un climat un peu compliqué. Même des chercheurs très reconnus au Sénégal, hein, qui ont voulu un peu voilà, mettre le nez dans. Mais c'est ce mouvement, bon, maintenant c'est un mouvement qui est rentré vraiment dans les rangs. Il y a des confréries au Sénégal, des confréries qui. Ça dépend, il y a des fidèles qui sont. Il faut surtout rien dire sur leur guide spirituel parce qu'ils vont saccager des journaux. Ça a été fait multiples fois. S'il y a un film au cinéma qui ne leur plaît pas, ils vont saccager une salle de cinéma. D'ailleurs, il n'y a plus de salle de cinéma au Sénégal et c'est aussi en partie par cette remoralisation du religieux. Il y avait une censure vraiment réelle par rapport aux questions religieuses. Qui est d'ailleurs toujours présente, hein, au Sénégal. Donc voilà, ça c'était ma première expérience, donc c'était mon terrain de thèse, donc c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans la discipline de l'anthropologie. Et finalement, je dois avouer que ça m'a bien plu de faire un terrain compliqué et que maintenant, quand je fais des terrains où tout se passe super bien, je m'ennuie un peu. Donc j'ai un peu tendance à chercher les complications. Je dois le reconnaître. Du coup, quand je commençais à travailler sur l'Église universelle du Royaume de Dieu, donc pour bon, c'était pas pour mon HDR, j'ai travaillé dessus, puis j'en ai fait mon HDR.
Ton premier point, cacher qui l'on est, cacher ce que l'on fait, c'est ce que tu es en train de.
Et voilà, donc là, ça a été le terrain le plus amusant, le plus. Enfin, j'ai adoré faire ce travail sur cette Église évangélique. Ça a été vraiment l'un des meilleurs terrains que j'ai fait parce qu'il y a un côté très aussi très très festif où on va à des cultes où on chante où on danse où on est dans une espèce d'exaltation, les gens rentrent en transe, etc. Donc ça, il y a une dimension qui est très très ludique même dans ce travail-là. Donc je me suis vraiment amusée à le faire, mais ça a été encore un travail très très compliqué. Donc l'Église universelle du Royaume de Dieu, c'est une église néo-évangélique brésilienne, qui est donc le siège est au Brésil et elle est répandue dans plus de 80 pays dans le monde. Enfin, si vous vous intéressez aux évangéliques, vous devez connaître parce qu'elle est très 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 connue. Elle est très étudiée de par le monde. La particularité de cette église, c'est qu'elle prêche la théologie de la prospérité. Alors, la théologie de la prospérité, pour faire très 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 bref, c'est l'idée que si on est malade, si on est au chômage, si on a des problèmes dans sa vie, c'est parce qu'on le mérite et que il faut s'acheter son salut ici-bas et dans l'au-delà. Donc il faut s'acheter sa prospérité en ayant un comportement conforme à la Bible, avec une lecture assez littérale de la Bible. Il faut aller dans son église et puis surtout, il faut acheter son salut. C'est une église qui a basé sa théologie sur l'argent. Il faut donner de l'argent, la dîme. Il faut donner des offrandes diverses. Il y a tout le temps des offrandes. Il faut faire des cadeaux. Il faut faire. Et en fait, plus on donne de l'argent, plus Dieu est content. Le Christ est content et on fait un deal en fait avec lui et on achète. Voilà, c'est un miracle en fait. On va dans cette église pour attendre un miracle et ce miracle, on l'achète vraiment avec ses sous, quoi. Donc c'est une église qui touche beaucoup, enfin, qui est très 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 répandue, très populaire. En Amérique latine, elle est très 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 populaire. Elle touche les populations les plus pauvres. Donc c'est un peu un paradoxe. On se demande comment les gens qui sont très pauvres n'ont pas d'argent à donner. Mais si, le peu qu'ils gagnent, ils en donnent une grande partie parce que justement c'est eux qui cherchent à devenir très riches. Et l'Église, ils ont un discours très très bien rodé et ils promettent le miracle et les gens y croient. Voilà. Donc c'est une Église qui est arrivée au Sénégal. Au début des années 2000, le contexte, on est au Sénégal, pays très islamisé, où il y a une église catholique minoritaire, mais qui est très, très respectée, liée à la colonisation, et il y a des églises évangéliques qui. Il n'y en a aucune qui fonctionne. Pour avoir travaillé sur le Burkina Faso, il y a des églises évangéliques partout. Là, au Sénégal, il n'y a aucune église évangélique. Les églises évangéliques, elles sont toutes peuplées par justement des Burkinabés, par des Ivoiriens, par des Congolais qui sont migrants, immigrés au Sénégal et qui ont reconstruit des églises. Les Sénégalais, eux, ils sont musulmans. Et donc, quand j'ai appris que cette église évangélique, du Royaume de Dieu arrivait à Dakar, En plus, j'avais des collègues qui travaillaient dessus. Je savais que c'était une église très compliquée, très fermée, qui ne voulait absolument. Tous les chercheurs qui travaillent dessus disent que c'est impossible de travailler sur cette église, qu'ils ne veulent pas qu'on fasse du terrain, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Elle est complètement fermée. Donc, moi, forcément, ça m'a attirée. Et en plus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire au Sénégal, quoi? Qu'est-ce qu'ils espèrent au Sénégal? Et donc, je suis rentrée dans cette église et j'ai été vraiment frappée. Parce que dès la première fois où je suis rentrée, j'ai regardé les gens. Bon, ils ont racheté un cinéma, hein, comme ils font partout dans le monde. Donc, vraiment, ils ont gardé la configuration du cinéma. Donc, quand on arrive, on surplombe, et puis ça descend comme ça, puis il y a une scène en bas. Et donc, moi, j'ai vu, en plus, c'est un immense cinéma, enfin, il doit y avoir plus de 500 places assises. Et donc, je suis arrivée, j'ai regardé les gens, il m'a fallu 5 minutes pour comprendre, parce que, bon, voilà, je sais comment les gens sont habillés au Sénégal en fonction de leur appartenance religieuse, de leur, voilà. Et j'ai vu, je me suis dit, mais ce n'est que des musulmans dans cette église, quoi. Il y avait des femmes voilées, il y avait des hommes en djellaba, avec le petit bonnet de coton, etc., avec des signes vraiment... Et j'étais avec un ami sénégalais qui m'a dit, mais c'est quoi cette église? Il n'y a que des musulmans. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose, quoi. Il y a un sujet. Je ne savais pas encore lequel, mais il y avait un sujet. Et donc l'intérêt que j'ai eu à travailler sur cette église, il faut savoir que c'est resté toujours un épiphénomène au Sénégal. Hein. Dans les années 2007-2010, quand elle était à son apogée, il y avait en tout et pour tout 5 000 fidèles, peut-être, grosso modo, dans cette église. Donc c'était vraiment un épiphénomène, mais qui était très très intéressant parce qu'il était très révélateur, et ça je l'ai vu par la suite. À un moment donné où elle était elle faisait beaucoup parler d'elle, et là encore il y a eu beaucoup de journaux qui ont parlé de cette église, etc. Elle a fait ressortir les contradictions internes de la société sénégalaise. Les gens se sont déchirés par rapport à cette église. Les communautés religieuses au Sénégal se sont déchirées par rapport à cette église. Et du coup, elle était vraiment révélatrice de qu'est-ce que c'est que le religieux au Sénégal. Donc ça a été très très intéressant. Mais moi, au départ, je m'y suis intéressée parce que, voilà, voyons qu'il y a des musulmans qui sont dans une église évangélique. Quand j'ai discuté avec les gens quand ils sont sortis de l'église, je leur ai dit, mais vous êtes musulmans? Ils m'ont dit, bah, oui, on est musulmans. Et on est musulmans. Moi, je suis musulman, je suis pratiquant, je l'affirme haut et fort, je suis musulman. Qu'est-ce que vous faites dans cette église, quoi? Et on ne cherche absolument pas à se convertir. Ce sont des gens qui ne voulaient pas se convertir dans cette église évangélique. Donc, ce sont des musulmans qui vont dans une église chrétienne pour chercher un miracle. Ils se disent, après tout, Jésus, Issa, il a fait des miracles, on y croit, c'est dans le Coran, donc ça ne peut pas faire de mal. À un moment donné, moi j'ai un problème dans ma vie, je suis au chômage, je suis malade, j'ai des problèmes avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, je suis pauvre, j'ai envie d'avoir de l'argent, je ne sais pas, n'importe quoi. Cette église qui faisait beaucoup, beaucoup de publicité promettait des miracles. Ces gens y sont allés en quête de ce miracle, en l'espérant, en se disant, je reste musulman, je fais ma pratique, et à côté, j'y vais. Ils font un cumul de pratiques religieuses, sans les mélanger. Et donc, moi, c'est là-dessus que je me suis intéressée à cette église. C'est ça qui m'a intéressée, surtout que ce travail, je l'ai fait à l'intérieur d'un programme ANR que j'avais monté, sur les pratiques religieuses privées des individus. L'objectif de ce programme, c'était de comprendre dans des contextes sociaux où le religieux sature, je l'ai dit, hein, les espaces publics, impose des manières de vivre aux gens. La question, c'était de savoir comment les individus intègrent les normes religieuses dans leur vie quotidienne, comment qu'ils soient chrétiens ou musulmans, les gens se saisissent de ces normes, qu'est-ce qu'ils en font, comment ils les mettent en scène, voire même comment ils les détournent, comment on arrive voilà, dans un contexte où il y a du religieux partout, comment on joue avec ça dans son quotidien. C'était ça le sujet du programme ANR, donc les pratiques privées du religieux. Et du coup, cette thématique rentrait complètement là-dedans. Alors, je l'ai dit, c'était une église complètement fermée. Je le savais en y allant. La première fois que j'y suis allée et que j'ai vu tous ces gens-là, tout de suite, moi, j'ai été arrêtée à l'entrée par des pasteurs qui m'ont dit, qu'est-ce que vous venez faire là? On ne vous connaît pas. Et j'ai dit, je suis anthropologue et je voudrais faire une étude sur votre église. Et ils m'ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas de vous, au revoir, il n'y a rien à voir. Et puis, j'ai discuté un peu plus avec un pasteur, il m'a dit, par contre, si vous avez envie, vous, de devenir fidèle de l'Église, bienvenue. Ah, j'ai dit, ben voilà. Donc, C'était ça. Donc, on a deux choix. Pareil, soit on s'en va, on fait autre chose. Moi, j'avais vraiment envie de travailler sur cette église. Donc, je me suis dit, bon, on veut que je vienne en tant que fidèle. Ben, je suis partie en tant que fidèle. Et donc, j'ai passé 5 ans, 7 ans à faire du terrain à partir de 3 mois au Sénégal chaque année, voire plusieurs fois. Voilà, à être tous les jours dans l'église et à être apprenti fidèle. Ce qui s'est passé, alors ça, c'est le hasard. Le hasard a toujours une importance capitale dans nos recherches. Alors ça, évidemment, on ne le maîtrise pas, mais on trouve toujours une personne qui tombe comme ça et qui est une porte d'entrée. Voilà, c'est très, très souvent que ça arrive, ça. Et je commençais à peine. Et dans mon quartier, il y avait des amis. Et puis, il y avait un jeune du quartier que je ne connaissais pas, qui était ce jour-là chez des amis. Ils étaient en train de parler de moi, de mon travail et des difficultés que j'avais pour... Et lui, il a dit, mais moi, je suis fidèle de cette église. Mais par contre, je trouve ça vraiment intéressant ce que la Toubab, la française, elle a envie de faire. Et lui, il ne comprenait pas que cette église soit autant fermée, parce qu'il avait envie de la publiciser, de la faire connaître. Et donc, il est venu me voir. Il m'a dit, mais viens, moi, je t'amène dans l'église. Je te fais rentrer, je te présente à tout le monde, mais par contre, surtout, tu ne dis jamais le travail que tu es en train de faire. Ça reste notre secret, parce que toi, on va te chasser, et moi, je vais avoir des problèmes. Alors lui, il était fidèle. Et donc, il a été ma porte d'entrée, et il m'a présenté à tous les fidèles, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait toutes mes enquêtes, à aller chez des fidèles, à aller chez eux, chez les gens, on passait des après-midi entiers à boire le thé, à discuter de l'église, d'une façon complètement naturelle. Les gens m'ont reçu, ça a été un travail absolument formidable. Oui.
Il vous a présenté en tant que quoi ?
En tant que, comme moi je disais, je suis en recherche. Comme je le disais au départ, la formule magique, je suis en recherche. Recherche spirituelle, recherche scientifique, on ne précise pas. Je suis en recherche. Alors moi, je laissais entendre que j'étais intéressée. Moi, j'étais intéressée à titre personnel par cette église. Elle m'intéressait, donc je voulais mieux la connaître avant de décider si j'allais m'y convertir ou pas. C'était ça le discours. Voilà. Alors je vais expliquer parce qu'en fait, ce qui s'est passé. Donc personne pendant toutes ces années n'a jamais rien su de ce que je faisais, des raisons réelles de ma présence. Par contre, ce que j'ai compris. Attendez, je vais du coup, ben, je me suis perdue. Je voulais, j'ai sauté. Ce que j'ai compris dans cette église, c'est que c'était un ensemble de dupes. Tout le monde quelque part jouait un rôle dans cette église. Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. D'abord, les pasteurs. Alors les pasteurs, ils sont des chrétiens évangéliques. Alors eux, ils venaient d'Angola. Donc, c'est une église brésilienne, hein, je l'ai dit. Donc souvent, ce sont des gens lusophones qui vont évangéliser dans des pays francophones ou anglophones, en tout cas pour l'Afrique. Donc là, c'était des gens qui venaient d'Angola, des pasteurs qui venaient d'Angola. Ils arrivent au Sénégal. Eux, leur objectif, c'est quoi ? C'est que l'église s'implante et que les Sénégalais aillent dans cette église. Donc, ils ont toujours caché leur caractère chrétien. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient une église chrétienne. Ça, c'est particulier au Sénégal. J'ai lu beaucoup de travaux sur cette église évangélique dans le monde, le Sénégal, parce que c'est l'un des seuls endroits, un seul pays musulman où elle s'est implantée. Généralement, elle va plutôt dans les pays où ils sont plutôt catholiques. Voilà. Et là, face à des musulmans, ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient des chrétiens, parce que sinon, ils allaient attirer personne. Et donc, ils ont développé tout un discours, ils ont fait des campagnes de prosélytisme. Moi, je suis allée avec eux, hein, distribuer des tracts sur les marchés. Le discours, c'était quoi ? Nous, ils se présentaient comme un centre de soins, puisqu'ils font des miracles et ils soignent les gens. L'idée, c'était, vous êtes malade. Alors, c'était toutes les maladies qu'il y a au Sénégal, hein, le diabète, voilà, les maladies les plus courantes. Vous souffrez de telles maladies, venez dans notre église. On va faire des prières et on va vous soigner. Mais on est ouvert à toutes les religions parce que nous-mêmes, nous sommes sans religion. Ils se disaient sans religion, les pasteurs disaient qu'ils étaient sans religion, qu'ils étaient juste un complément de spiritualité. et que c'était par ce complément de spiritualité qui manquait à ces gens, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient catholiques, ça allait les guérir. Donc ils se présentaient comme ça. Donc c'était déjà, les pasteurs étaient sur un mensonge total par rapport à ce qu'ils venaient vraiment faire. L'idée étant évidemment pour eux, en disant on accepte toutes les religions et on ne vous demande pas de vous convertir, vous pouvez venir dans cette église, la fréquenter, on ne vous demande rien. L'idée est évidemment qu'à la longue, les gens se convertissent, c'était l'espoir qu'ils avaient. Donc ça c'est du côté des pasteurs. Les fidèles, aux trois quarts des musulmans, quelques catholiques qui y vont aussi, je l'ai dit, eux, ils y allaient sans vouloir se convertir et en bricolant, je mets les guillemets parce que c'est un terme que j'ai déconstruit, en tout cas, ils inventaient une manière de pratiquer du religieux, là, sur place. Et je me suis rendu compte, parce que c'est une église qui est très très hiérarchisée, quand on va au culte, il y a toute une armée on les appelle les ouvriers qui sont là, qui travaillent, ce sont des jeunes qui sont en costard, et qui pendant les cultes vont dire, si jamais tout le monde lève une main et que nous par malheur on lève l'autre main comme ça, ils viennent dire, vous n'avez pas levé la bonne main, enfin voilà, c'est vraiment réglementé. Donc tout le monde marche au pas en fait dans l'église, même quand on chante, quand on danse, il faut vraiment suivre le rythme. Et quand on va dans cette église, on a l'impression que tout le monde est fidèle à fond, que tout le monde suit les normes. Et moi, tout mon travail a été de chercher tous les hiatus, tout ce qui ne marchait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que chaque individu qui était dans cette église faisait du religieux à sa propre manière, inventait des choses. Alors, je vais vous donner des exemples hein, par la suite pour vous expliquer. Mais en fait, c'est pas du tout un mensonge, parce que les gens, ils y vont parce qu'ils y croient vraiment. Ils croient vraiment qu'ils voient un miracle. Mais en fait, ils sont dans une église évangélique où on leur demande de faire des choses qui ne leur conviennent pas forcément. Du coup, eux, ils s'arrangent. Ils s'arrangent au moment du culte. Ils font pas... Voilà, alors par exemple, je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus clair. Les fidèles y allaient, alors que je l'ai dit, hein, c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de musulmans, il y avait beaucoup de femmes qui y allaient en portant un voile islamique, ou des hommes habillés aussi avec des styles vestimentaires à connotation islamique. Mais il y avait aussi la même chose chez les chrétiens. Moi, j'ai souvenir d'une fois, j'étais assise, il y a une femme qui est assise, une vieille femme qui est venue s'asseoir devant moi, elle avait un boubou avec à l'effigie du pape. Enfin, je veux dire, voilà, c'était complètement... c'était ahurissant de voir ça dans cette église, quoi, dans une église évangélique où les gens montrent clairement qu'ils sont d'une autre appartenance religieuse. Et ils l'affichent. Et donc, moi, quand j'ai discuté avec les gens, je leur disais, mais vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction ? Enfin, au moins, vous pourriez ne pas le montrer. Ben non, parce que pour eux, ce n'était pas une vraie religion. Ils n'allaient pas pratiquer une religion. Leur religion, c'était leur religion d'origine, qu'ils soient musulmans ou catholiques. Donc là, ils allaient pour un complément de foi. Et donc, ils s'habillaient comme ils s'habillaient au quotidien, en fait. Et donc, si c'était des gens qui avaient déjà des tenues qui étaient connotées d'un point de vue religieux, ben, ils les portaient pour venir dans cette église. Pour eux, ça ne leur posait pas de problème. Par exemple, les fidèles aussi pensaient que certains dogmes ne collaient pas avec leurs propres croyances. Et donc, ils les détournaient. Par exemple, au Sénégal, les gens portent beaucoup, beaucoup, beaucoup de gris-gris, de talismans. Et c'est très, très visible, que ce soit les bagues, les pochettes de cuir autour des poignets, autour de la taille. Bon, ça se voit. Et donc, les pasteurs dans l'église passaient leur temps à dire « ça, il faut les enlever, c'est l'œuvre du diable. Il faut les jeter, il faut les brûler, etc. » Et là, moi, je voyais tous les gens qui étaient bardés de gris-gris, qui disaient oui au pasteur, mais qui ne les enlevaient pas. Alors, c'est pareil, en fait, ils comprenaient très bien, ils disaient oui parce qu'ils comprenaient très bien que pour les pasteurs, c'était un problème. Sauf qu'eux, ils n'étaient pas venus pour leur enlever toutes les forces mystiques qu'ils avaient déjà acquises par ailleurs, en allant voir des guérisseurs, etc. Ils venaient juste pour chercher un complément dans cette église. Donc, eux, pour eux, ils pouvaient cumuler tout, quoi. Ça ne posait pas de problème. Il n'y avait pas de hiatus pour eux. Mais par contre, ils approuvaient quand les pasteurs disaient qu'il fallait les enlever, parce que oui, effectivement, ils comprenaient très bien que le pasteur trouvait que c'était le diable. Pour eux, c'était pas ça. Pendant le Ramadan, par exemple, les pasteurs ont souvent encouragé les musulmans à venir communier. Question de leur faire rompre le jeûne. Beaucoup de musulmans refusaient de le faire. Moi, ce qui me faisait rire, par exemple, c'était à chaque culte, les pasteurs récitaient le Notre Père. C'était systématiquement lors de chaque culte, en sachant que des cultes, il y en a tous les jours. Hein. Et parfois, c'était même plusieurs fois lors des cultes. Et ce qu'ils faisaient les pasteurs, c'est qu'ils récitaient le Notre Père, et quand c'était fini, ils applaudissaient. Et alors là, on voyait les catholiques, qui étaient très, très minoritaires dans cette église, qui faisaient le signe de croix. Donc, on les voyait parce qu'ils faisaient le signe de croix. Et moi, j'ai discuté en discutant avec donc, des fidèles qui étaient musulmans. Un jour, je ne sais pas, il y en a plusieurs, ils m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit, mais tu sais, enfin, nous, le Notre Père, on fait semblant de le réciter. On ne le récite pas parce que nous, on ne peut pas. Issa, ce n'est pas le Fils de Dieu. Issa, c'est un prophète, donc on ne peut pas réciter le Notre Père. Et donc, eux, pendant que les pasteurs ils récitaient le Notre Père, eux... Il disait autre chose, la ilaha illallah, ou une sourate du Coran, ou voilà. Ils se faisaient leur propre truc, et puis à la fin, ils applaudissaient comme s'ils avaient fait eux-mêmes la récitation du Notre Père. Donc on avait une apparence comme ça, où tout le monde marchait au diapason, où tout le monde suivait les consignes des pasteurs, et en réalité, chacun faisait du religieux à sa manière. Et moi, mon travail, ça a été de passer des heures et des heures et des heures dans cette église à faire aussi semblant de faire exactement les mêmes gestes que tout le monde, etc. Et en fait, à observer tout ce qui dysfonctionnait. Et tout ça pour dire que ce jeu de dupes qui était à tous les niveaux, moi, finalement, je suis arrivée en faisant croire que je voulais devenir fidèle. Et je me suis rendu compte très vite que personne n'en avait strictement rien à faire. Comme c'est des gens qui ne font pas communauté, ils ne viennent pas pour créer une communauté religieuse, ils y vont juste pour eux, pour leur propre salut. Moi, ce que je faisais dans cette église, ils n'en avaient rien à faire. Et tout le monde savait très bien, en fait, ils étaient tous en train de penser, alors, ils ne savaient pas ce que c'est anthropologue, ils pensaient que j'étais journaliste, ils pensaient que j'allais écrire un livre. Voilà, et c'est pour ça que quand j'allais chez les gens, des fois je disais, est-ce que je peux sortir mon carnet pour prendre des notes? Ou des fois je sortais le dictaphone, je vais enregistrer les discussions. Ça n'a jamais posé problème parce qu'en fait, tout le monde se moquait de ce que je pouvais faire dans cette église, sauf les pasteurs évidemment, qui m'ont une fois convoqué parce qu'ils avaient beaucoup beaucoup de doutes et ils ont voulu me chasser de l'église, mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas de preuves, parce que moi j'ai nié évidemment, j'ai dit non, mais je comprends pas pourquoi vous me convoquez et tout. Et alors ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de détourner les choses. Ils ont demandé à tous les fidèles ils ont interdit aux fidèles de me parler. Donc ça a créé un climat un peu compliqué. Et un jour, un dimanche matin, en plein culte, les pasteurs se sont tous tournés vers moi et en disant « La journaliste ici présente, tu es l'œuvre de Satan, etc. » Bon voilà, puis tout le monde se tournait vers moi. C'était un moment un peu particulier. Mais en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ça m'a plutôt servi parce qu'il y a eu tout un collectif de fidèles qui sont venus me voir et qui m'ont dit, parce qu'en fait, les gens étaient très, très critiques envers cette église. Ils passaient leur temps à la critiquer. Ils y allaient tous les jours en espérant un miracle, mais en même temps, comme ils ne voulaient pas adhérer à cette église, ils ne s'y convertissaient pas, ils passaient leur temps à critiquer les pasteurs, à critiquer la façon dont on fonctionnait dans cette église. Il faut dire qu'il y avait un climat assez délétère avec... mais ça, c'est partout dans le monde, elle est comme ça, c'est une église qui fonctionne comme ça, où on fait des enquêtes sur les fidèles. Moi, ils ont fait des enquêtes sur moi, ils sont venus voir où est-ce que j'habitais à Dakar, qui était ma famille, etc. Bon, ils sont même pas allés voir sur Internet, hein, parce que sinon, ils auraient trouvé qui j'étais, mais ça, ils l'ont pas fait. Mais voilà, donc il y a un climat avec des rumeurs qui circulent là aussi, dans le groupe des jeunes. On accuse déjà tous les fidèles qui viennent depuis longtemps dans une église et qui sont malades et qui ne guérissent pas. On considère que c'est parce qu'ils continuent à aller voir des marabouts, des féticheurs, etc. Donc on les accuse publiquement d'être des mauvais pratiquants. Il y a une sorte de violence comme ça. Les fidèles, ils ne le supportaient pas. Donc ils étaient très, très critiques. Et moi, en fait, ils passaient leur temps à leur raconter tout ce qui leur convenait pas dans cette église. Donc, ils n'étaient pas du tout dupes, en fait, de ma place, de ce que je faisais. Voilà, bon, j'ai coupé des choses, mais voilà. Donc, c'est une question, je ne sais plus qui l'avait posée la dernière fois. Qu'est-ce qu'on fait sur un terrain où, voilà, on peut... Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas un chercheur? Donc, quelque part, on instrumentalise les gens qu'on a en face de nous. Donc, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans son observation participante? Moi, je me suis posé 10 000 fois la question sur ce terrain. Est-ce que j'avais le droit d'aller me faire baptiser par immersion? Est-ce que j'avais le droit... Jusqu'où je pouvais aller pour jouer ce rôle d'apprenti fidèle? Et puis, tout le temps, j'avais peur des conséquences. Je me disais, qu'est-ce que je fais si je me fais démasquer? Moi, on va me chasser. Bon, mon terrain sera fini, mais le jeune qui m'accompagnait dans l'église, lui, il va avoir des problèmes. Donc voilà, forcément, ça pose des questions. Et d'un point de vue méthodologique, c'est là-dessus que je voudrais insister. On voit vraiment, on le voit, le sujet, ça on l'a déjà dit les séances précédentes, le sujet souvent, il naît du terrain. C'est le terrain qui crée en tout cas la problématique de son travail. Là, on voit aussi que c'est la méthodologie, elle doit s'adapter au travail, au terrain. Chaque terrain est différent. Les interlocuteurs sont toujours différents, on est reçu de façon différente et donc on doit s'adapter. Et c'est le travail du chercheur est de savoir employer la bonne méthodologie et inventer la bonne méthodologie, surtout au moment où il est sur son travail, sur son terrain. Vraiment, ça a été un travail vraiment très passionnant pour moi à faire. Je vais juste conclure. Je vais conclure sur un dernier terrain hostile que j'ai vécu il n'y a pas très très longtemps. Donc là, c'était en Algérie, où j'étais partie travailler sur... travailler sur les pratiques islamiques dans le quotidien des gens, mais c'était pas forcément, la première fois que je suis partie, c'était pas forcément mieux défini que ça. J'attendais de voir que justement le terrain me donne un sujet un peu plus concret. Donc j'étais vraiment ouverte aux pistes qu'allait m'offrir le terrain. Par un concours de circonstances, je me suis retrouvée par connaissance. Voilà, je me suis retrouvée dans la région de Blida, qui est une région très très conservatrice. Je savais qu'en y allant, que c'était une région conservatrice, et même je m'étais dit que c'était intéressant. J'avais envie de travailler sur les mouvements salafistes, qui étaient très très différents des mouvements soufis que j'avais pu connaître au Burkina, au Sénégal, voire même au Maroc. Je partais volontaire pour travailler dans ce contexte-là. Sauf que ce que je n'avais pas du tout anticipé, et ça c'est aussi les aléas des fois du terrain, je me suis retrouvée dans une famille où les femmes n'avaient pas le droit de sortir. Et du coup, le fait que je sois française, chercheuse, ils n'en avaient absolument rien à faire, j'étais juste une femme. Et donc, j'ai passé 2 mois enfermée dans une maison. Et du coup, c'est l'intérieur de la maison qui est devenu mon terrain ethnographique, pour le coup. Je ne vais pas développer ici, mon travail sur l'Algérie porte sur des questions de genre. Je n'ai jamais travaillé sur les questions de genre auparavant. Mais là, en Algérie, les questions de genre se sont imposées à moi. Et donc, pour travailler sur le religieux et travailler sur le quotidien et le religieux dans le quotidien, les questions du genre et des rapports genrés dans la société se sont imposées. Donc voilà, comment un terrain fait le sujet, fait la problématique et fait comment on doit s'adapter d'un point de vue méthodologique à son terrain. Voilà.